Première partie, les signes de la rencontre. Chapitre 1. Je suis troublé qu'on se fissure ma carapace. Rencontrer quelqu'un, c'est être bousculé, troublé. Quelque chose se produit que nous n'avons pas choisi, qui nous prend par surprise. C'est le choc de la rencontre. Le mot rencontre vient du mieux français encontre, qui exprime le fait de heurter quelqu'un sur son chemin. Il envoie donc à un choc avec l'altérité. Les deux êtres entrent en contact, se heurtent et voient leur trajectoire modifiée. Une singularité peut très bien en croiser une autre sans être troublée. C'est alors la preuve qu'il n'y a pas rencontre, mais simplement croisement. Rien de plus étonnant en effet, de plus dérangeant parfois, de plus difficile à saisir que la différence de l'autre. Comment pourrais-je ne pas être ébranlé de te rencontrer, toi qui m'échappes précisément parce que tu es autre ? Parce que tu as une autre histoire, une autre façon de voir le monde et de sentir les choses. Si je reste de marbre, c'est que je t'ai à peine aperçu ou que je n'ai vu en toi qu'un miroir me réfléchissant. Ce trouble vient souvent d'un choc visuel. Lorsque Anna Karénine aperçoit le prince Vronsky dans une gare, elle ne sait encore rien de lui, mais son trouble est immédiat. Déjà, il se détache de la foule. Qu'est-ce qui la touche ainsi ? Est-ce l'apparition de l'autre, dont elle devine la force, la singularité ? Est-ce de sentir en elle ce mouvement, cet élan auquel rien ne l'avait préparé ? Ce trouble peut convoquer plusieurs sens en même temps. Il nous semble parfois que nous ne connaissions pas un être avant de le découvrir, émerveillé. La folle douceur de sa peau et de le sentir réagir à nos caresses, à nos baisers, à nos mots. Dans le trouble amoureux, certains signes ne trompent pas, qui indiquent combien ce mouvement nous prend au dépourvu. Accélération du rythme cardiaque, paroles hésitantes, bouche sèche, transpiration, mutisme. Devant cette puissance d'accélération de la vie, notre corps réagit comme si, incapable de prendre le rythme, il avait besoin d'un temps d'adaptation. Parfois, c'est d'abord le timbre d'une voix qui nous touche, éveille notre curiosité, réveille en nous des souvenirs enfouis. Une voix du passé, de notre enfance, nous appelle. En entendant, pour la première fois, la voix de Pierre Soulages au téléphone, sans même l'avoir rencontré en chair et en os, Christian Bebin raconte avoir eu la certitude de le rencontrer. Il rapporte ce moment dans le livre consacré à leur amitié, Pierre. Un amusement traverse sa voix, un étonnement que Soulages a de vous et de lui. Cet ébranlement peut aussi être d'ordre plus intellectuel. Ainsi, Picasso, que la politique avait toujours laissé indifférent, croisait Éluard depuis des années quand un jour de 1934, ce dernier lui parle de son engagement pacifiste. Picasso s'ouvre alors à une vision politique du monde. À cet instant précis, il rencontre enfin le poète. Et puis parfois, c'est en plein cœur que l'autre nous touche, à l'image d'un des tandems les plus mythiques du rock indé de la seconde moitié des 70s. La rencontre de David Bowie et Iggy Pop ne s'est pas faite sur un fond de communion musicale. Bowie a avant tout été sensible à la détresse de Junkie et à la solitude de l'iguane. Quelques formes que prennent ce trouble, qui va de la simple sensation au vertige, il dit combien la vie peut nous surprendre. Il faut maintenant se rendre à l'évidence, nous ne maîtrisons pas tout. Deux singularités, par-delà deux mondes, viennent de se frotter l'une à l'autre. Nous ne savons pas encore ce qui en résultera. La créativité de Picasso en sera relancée, Anna Karénine finira par en mourir. Mais le fait est, cela a eu lieu. Si par hasard, nous nourrissons l'illusion d'être des monades autosuffisantes, indépendantes, tranquillement installées dans leur identité et leur habitude, nous voilà subtilement réveillés. Notre confort est troublé. Nous sentons que nous aspirons à autre chose, ce qui est à la fois grisant et inquiétant. Notre trouble nous porte à la fois vers l'autre qui nous étonne et vers cette partie de nous-mêmes qui nous échappe. Picasso, rencontrant Éluard, est autant surpris par l'idéalisme du poète que par l'écho qu'il trouve en lui. dans le trouble sensuel, étendu dans les draps défaits, nous sommes surpris, autant par l'autre, par sa beauté, son désir, que parce que nous sentons monter en nous. Au fond, c'est comme s'il y avait deux rencontres simultanées. Celle de l'altérité de l'autre, celle de l'altérité en nous. « Je est un autre », écrit Rimbaud dans une lettre à Paul Demeny en 1871. Il faut parfois rencontrer l'autre pour le comprendre, l'éprouver enfin. Rencontrer l'autre, en l'autre, pour découvrir qu'il y a un autre en soi, et réaliser que cet autre, en soi, est peut-être plus soi que celui que nous croyons être. Comme nous sommes loin de l'hypocrite, j'ai été ravi de vous rencontrer, que nous lâchons parfois pour écourter un rendez-vous, d'autant plus ennuyeux qu'ils ne nous ont rien troublé. Clint Eastwood met en scène la naissance et la force de ce trouble dans son adaptation cinématographique du roman de Robert James Waller « Sur la route de Madison ». Meryl Streep y incarne une femme au foyer, originaire du sud de l'Italie, installée depuis des décennies dans l'Iowa, avec son mari et ses deux enfants désormais adolescents. Seule dans sa ferme pendant 4 jours, son mari et ses enfants participent à un concours bovin. Francesca fait la rencontre de Robert, un photographe du National Geographic, de passage pour un reportage sur les ponts de l'Iowa. Des ponts couverts, construction en bois, peints typiquement de la région. Ensemble, ils vont vivre une passion qui changera son existence. À l'issue de ces 4 jours, parenthèse folle où semble se condenser une vie entière, et après une déchirante hésitation, Francesca décidera de ne pas quitter son foyer et laissera Robert partir seul. Mais ce qu'ils ont partagé l'accompagnera pour toujours. La nourrira chaque jour de cette vie à la ferme constituée d'une somme de détails. Un quotidien de ménagère, portant à son mari affection et respect, loin de l'amour intense pour Robert qu'elle chérira comme un trésor. Une aventure digne des rêves de jeunesse qu'elle a laissé derrière elle en s'installant dans l'Iowa. Dans son testament, elle demandera que ses cendres soient dispersées là même où l'ont été celles de Robert, depuis le pont à l'origine de leur rencontre. Au cœur de ces 4 jours, passés à parler et à rire, et à se promener et à boire, à prendre des bains et à faire l'amour, l'essence de la rencontre se révèle dans une remarque de Francesca évoquant le trouble qui l'a saisi. « Je ne me reconnais plus, j'ai l'impression de ne plus être moi-même, et en même temps, je n'ai jamais été autant moi-même qu'aujourd'hui. » Le trouble est ici pur vertige. Ce qu'elle fait ne lui ressemble, a priori pas. Elle ne souhaite aucunement trahir un mari à qui elle n'a rien à reprocher, mais à côté duquel elle s'éteint, s'absente peu à peu d'elle-même, s'étiolant dans la répétition des tâches quotidiennes. La rencontre avec Robert est bien plus intense. Elle ne peut résister à la vague qui la submerge subitement. Sa jeunesse italienne, son humour, sa féminité, la puissance même de la vie en elle. Tout ce qu'elle avait oublié d'elle-même, que le poids des jours et de cette vie de détail avait recouvert et qui est soudain revenu, plus fort que jamais, parce qu'elle a rencontré quelqu'un, parce que les yeux de cet homme se posent sur elle et l'embrasent. Ce photographe égaré lui a demandé son chemin, et voilà qu'elle retrouve le sien. Certes, elle renoncera à tout quitter pour lui, à partir loin des enfants, à infliger à son mari une humiliation dont il ne se relèverait pas. Ils habitent une ferme qui appartient à la famille de son époux depuis plus de 200 ans. Au cœur d'une campagne où tout se sait, dans une contrée de puritains, où le moindre adultère crée des décennies de commérages et d'ostracisme. Ne la jugeons donc pas pour avoir tourné le dos à un amour dont Robert lui a dit « Tu crois que cela arrive à beaucoup de monde, ce qui nous arrive ?» Comme le film nous invite à le comprendre, elle lui reste au fond fidèle et cette rencontre se poursuit au travers de son amour persistant de cette dimension d'elle-même qu'elle a découverte. Un tel amour lui semblait impossible et paradoxalement, c'est celui-là même qui lui a permis, ainsi nourrie de sa nouvelle vie intérieure, de demeurer l'épouse de ce mari honnête et qui manque à l'essentiel. Grâce à la rencontre de Robert, au cœur même du trouble de la rencontre, elle s'est découverte autre, et c'est cette autre redevenue véritablement elle-même qui l'accompagnera jusqu'au bout. Elle a pris le risque de cette parenthèse hors du temps, de ces 4 jours éternels qui l'ont fait renoncer qui l'ont fait renouer en elle avec l'amoureuse italienne. Elle sait maintenant que le rêve peut prendre corps, qu'il est sur terre des joies profondes et des communions supérieures, une sublime dictature du cœur et pas simplement celle des choses à faire. Dans La parole en archipel, René Char écrit « Il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose hors du commun ne se produise, qui n'était que pour nous. » C'est une belle définition du trouble de la rencontre. Même si elle n'a pas tout quitté pour Robert, c'est ce qu'a fait Francesca. Elle s'est établie, durant ces 4 jours, à l'extérieur d'elle-même, hors de cette identité figée dans sa vie de ménagère. Elle a pris le risque des larmes, et en effet, quelque chose hors du commun s'est produit, qui n'était que pour eux. Un choc dont les ondes se propageront jusqu'à leur mort, et à tous deux, et qui ressemble fort au surgissement de la vraie vie. Cette carapace qui se fissure dans le trouble de la rencontre est souvent notre carapace sociale. Si le moi profond est complexe, changeant et en grande partie énigmatique, le moi social est plus simple, plus figé. Il est nécessaire mais réducteur. Il apparaît sur notre carte d'identité ou lorsque nous présentons par notre fonction professionnelle, ouvrons la discussion par cette question. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà une bien mauvaise entrée en matière, tant le risque est grand de réduire l'autre à son métier et au statut qui l'accompagne. C'est ce que nous pourrions appeler la glu du social. Elle nous colle parfois à la peau, au basque, entrave notre liberté, notre capacité d'ouverture aux autres et parfois à nous-mêmes. Elle gêne nos mouvements, obscurcit nos jugements, abîme notre curiosité. Combien d'hommes ou de femmes se condamnent à la solitude, faute d'avoir su s'arracher à cette glu sociale. L'autre s'est présenté devant eux, avec peut-être la possibilité d'une histoire, mais ils ne l'ont pas vu, pas même envisagé. Ils ne se sont pas autorisés à le remarquer, gardant la porte close à la possibilité du trouble, parce que cet autre ne correspondait pas à leurs critères sociaux, n'entrait pas dans la bonne case. Heureusement, certaines rencontres nous arrachent à cette glu, produisent un choc capable de fissurer notre carapace. La rencontre a alors le pouvoir de créer du jeu dans ce « je » social. Elle fait souffler un vent de liberté sur une identité figée.